Notre Père, nous savons que sans ton esprit, nous ne pouvons rien comprendre. La chair et le sang ne peuvent pas pénétrer cette parole. Mais nous voulons nous ouvrir à ta grâce et te demander que tu puisses œuvrer dans nos cœurs et que le dessein bienveillant de ton amour pour chacun de nous puisse s'accomplir en toutes nos vies. Garde-nous maintenant dans cette étude. Saisis notre langue. Garde-nous de dire des choses qui ne seraient pas utiles et que nous puissions nous arrêter seulement sur les questions qui pourront nous être véritablement profitables pour ta seule gloire en Jésus-Christ. Amen. Eh bien, mes amis, on continue en ce 9 février 1985, ce thème, un message pour notre temps, et nous avons à considérer tout d'abord le chapitre 2 de ce merveilleux livre de Jonas. J'ai été saisi tout à l'heure en priant par cette pensée, mais il y a tant de choses qui pourraient être dites sur ces chapitres, et pourtant nous avons si peu de temps. Alors, il faut vraiment que le Seigneur nous dirige et nous contrôle. Je voudrais simplement vous encourager à continuer à faire cette étude parallèle entre le serviteur désobéissant qu'a été Jonas et le serviteur obéissant qu'a été le Seigneur Jésus, parce que nous n'avons donné que quelques jalons ce matin au sujet de cette étude qui est tellement enrichissante. Par exemple, quand Jonas a répondu à cette question, mais que te ferons-nous afin que la mer s'apaise pour nous? Il a dit, prenez-moi et jetez-moi à la mer, et la mer s'apaisera pour vous. Mais si vous pensez à Jésus, à Jérusalem, alors qu'il vient de chasser les vendeurs du temple, au chapitre 2 de l'évangile de Jean, on vient lui dire, mais enfin, par quelle autorité fais-tu ces choses? Qui t'autorise à une telle attitude? Parce qu'il n'est pas allé de main morte, vous savez qu'il a fait un fouet et qu'il a renversé les tables des changeurs et qu'il a chassé aussi les animaux, parce qu'on avait fait de la maison de son père une maison de trafic. Alors, on lui demande au verset 18, mais quel miracle nous montres-tu que tu fasses ces choses? Et qu'est-ce que Jésus répond? Détruisez ce temple. Détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs donc dirent, on était 46 ans à bâtir ce temple, et toi tu le relèveras en 3 jours. Vous voyez pourquoi je cite ces 3 jours, parce qu'il est aussi question de 3 jours dans ce que nous allons étudier. Mais lui parlait du temple de son corps. Il ne voulait pas plastiquer ce temple qu'avait restauré le roi Hérode. Non, il parlait du temple de son corps, de sa mort, et il annonçait qu'il mourrait, mais que 3 jours après, eh bien, il serait de nouveau debout. Et il est dit au verset 22, voyez que même si vous avez de la peine à comprendre certaines paroles du Seigneur ou de l'Écriture, eh bien, consolez-vous en vous disant que les disciples même, qui étaient tout près de Jésus, n'ont pas toujours compris. Lors donc qu'il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Hein? C'est seulement au bout de 3 ans qu'ils ont compris le sens de cette parole. Et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Alors à ce moment-là, quand ils ont vécu vraiment la résurrection du Seigneur, qu'ils ont compris. Vous savez que c'est avec cette parole que les faux témoins ont fait condamner Jésus. Devant Caïphe, devant le grand prêtre, quand on a fait venir des faux témoins, ils ont dit, nous l'avons entendu dire, détruisez ce temple. Mais eux parlaient du temple de Jérusalem. Donc c'est un homme, c'est un être dangereux. Et ils citaient des paroles que Jésus avait dites, mais Jésus n'avait pas donné à ces paroles un tel sens. Il parlait de son corps. Et puis, il ne disait pas que lui allait détruire le temple, hein, mais il disait détruisez ce temple. C'est eux qui allaient détruire le temple, c'est pas lui qui avait menacé de détruire leur temple. Vous voyez que quand on rapporte des paroles, on peut fausser toute la pensée de celui qui a prononcé ces paroles et on peut le faire condamner. Je dis simplement cela pour vous montrer que le sujet que nous avons étudié ce matin n'est pas du tout épuisé. Alors, maintenant, notre Jonas, désobéissant, nous allons le trouver repentant. Repentant. Mais, qu'est-ce qui lui est arrivé? Donc, il a demandé qu'on le jette à la mer. Et qu'est-ce qu'il avait dit comme prophète? Il avait dit, si vous me jetez à la mer, c'était la seule condition pour le salut de ces marins, eh bien, la tempête se calmera. La tempête se calmera. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y avait un espoir pour Jonas? Au fond, quand on l'a jeté par-dessus bord. Il avait dit, si vous me jetez par-dessus bord, la tempête va se calmer. Mais il a bien dit, pour vous. Mais pour lui. Parce que vous savez, chaque mot a son importance. Mais pour lui, si elle se calme pour eux, comment voulez-vous que la tempête se calme pour eux et puis que l'eau ne soit pas tranquille pour lui? De sorte qu'il y avait une chance pour lui, hein, même en étant jeté à la mer, une chance de survivre. Et on peut penser que Jonas, parce que personne ne désire tellement la mort. Oui, il semble que Jonas était souvent avec cette idée de la mort, hein, on le voit, il amène une espèce de phobie. Mais quand même, vous savez, la mort, oui, on la réclame, puis quand elle est toute proche, hein, on court chez le médecin, mais la mort, on essaye d'éviter la mort le plus possible. Hein. C'est pas très intéressant de mourir. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Jonas est jeté dans les eaux. La mer se calme. Est-ce que Jonas savait nager? C'est encore une possibilité. Si c'est un bon nageur, on ne sait pas où est le bateau, s'il est proche d'une côte, il y a peut-être, si la mer se calme, je peux peut-être nager. Mais c'est pas du tout ainsi que ça se passe. Donc il était jeté dans les flots avec des grandes vagues, hein, parce qu'elle n'est pas encore calmée tant qu'il n'est pas arrivé dans l'eau. Et alors, une fois qu'il plonge, qu'il descend, il peut peut-être penser, je vais nager. C'est ce qui arrive. Une chose effroyable, il n'y avait pas pensé. Un poisson. Mais quel poisson? Avec une gueule ouverte comme ça. Alors, mon salut d'être jeté à la mer. Ça marche pas. Ça les sauve, eux, mais moi. Et digéré par un poisson. Et puis, c'est quand même pas drôle d'entrer dans la gueule d'un poisson. C'est immense bête, là. C'est immense poisson. J'ai pas dit que c'était une baleine, hein. Mais un poisson préparé par le Créateur. Il s'y connaît. Le Créateur, celui qui a fait tous les monstres marins. Et voilà le monstre. L'immense monstre qui arrive
Il a pu avaler quelques tasses, mais maintenant, c'est lui qui est avalé d'un coup. Alors, évidemment, c'est cela qui rend le récit de Jonas incroyable. Et alors, depuis, les théologiens en particulier se sont acharnés pour trouver des explications plausibles, et on nous dit aujourd'hui, dans les derniers écrits théologiques, plus personne, plus aucun théologien ne croit à l'historicité de Jonas. Ce n'est pas un récit historique. Et vous êtes des attardés, vous êtes des arriérés, si vous pensez que l'histoire de Jonas est vraie. Alors, ce n'est donc pas historique. Et vous pouvez lire de très bons livres, peut-être, religieux même, mais vous ne trouverez pas dans la plupart de ces livres une explication comme celle que nous cherchons. Nous laissons la parole de Dieu nous enseigner. Et pourquoi est-ce que nous croyons à l'historicité de Jonas? Parce que Jésus l'a mentionné, n'est-ce pas? Il a dit, comme Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le sein du poisson, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Alors, ça veut dire que Jésus, il y croyait. Oui, mais alors les théologiens vous disent, mais il y croyait, mais Jésus, il était un homme, tout en étant le Fils de Dieu, bien sûr, mais il était un homme, et il a été élevé au milieu des justes, de sorte qu'il a participé aux erreurs de son temps. On racontait cette histoire de Jonas, alors Jésus a pris cet exemple, mais ça ne prouve pas, parce que Jésus a pris cet exemple, que le récit de Jonas est historique. C'était quelque chose de courant. Alors, il a cité cela, mais c'est un récit fictif. Alors, c'est pour ça qu'il faut lire tous les passages du Nouveau Testament au sujet de Jésus. Quand Jésus, est-ce que vous croyez que Jésus croyait que c'était simplement une parabole, un récit arrangé, ou bien est-ce que c'était historique? Vous croyez que c'est des hommes fictifs qui seront appelés au jugement, qui condamneront toute une génération? Il a dit clairement, n'est-ce pas, les gens de Ninive, car comme Jonas fut dans le ventre du cétacé 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Des hommes de Ninive se lèveront au jugement avec cette génération et la condamneront, car ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Mais si vous vouliez savoir, en fait, qu'on a dit, et c'est toujours à cause de ce poisson, d'abord, qu'on ne croit pas à l'historicité du livre de Jonas. La critique, ce qu'on appelle la critique biblique, nie le caractère historique de Jonas. On nous dit, je vous citerai 7 points seulement, que ce récit serait une simple allégorie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une allégorie? C'est une suite d'éléments descriptifs ou narratifs dont chacun correspond aux divers détails de l'idée qu'il prétend exprimer. Voilà ce que c'est qu'une allégorie. Maintenant, il y en a d'autres qui disent, c'est une légende. C'est une légende. C'est un récit populaire, traditionnel, plus ou moins fabuleux. D'autres vous disent, c'est un conte. Qu'est-ce que c'est qu'un conte? C'est un récit imaginaire destiné à distraire. Donc c'est une fiction. Et c'est vrai que ça distrait de lire Jonas. Hein? Les enfants aiment bien cette histoire de Jonas. C'est passionnant. Un beau conte. D'autres vous disent, c'est une fable. Qu'est-ce que c'est qu'une fable? Une fable, vous savez, c'est un petit récit en vers ou en prose destiné à illustrer un précepte, une vérité. Il y a les fables de La Fontaine en particulier. Il y a un enseignement dans les fables, c'est vrai. D'autres nous disent que c'est une fiction prophétique. C'est un fait qui a été imaginé par un auteur inconnu, un juif, mais c'est une invention, c'est le fruit de son imagination. C'est au fond, une fiction prophétique, c'est une création de l'imagination en littérature. Alors, on est d'accord pour dire que c'est vraiment un merveilleux récit. D'autres vous disent, mais c'est un mythe. Qu'est-ce que c'est qu'un mythe? Un mythe, c'est un récit fabuleux, souvent d'origine populaire, comme la légende, et qui met en scène des êtres incarnant sous une forme symbolique les forces de la nature, des aspects de la condition humaine. Donc, si c'est un mythe, c'est une pure construction de l'esprit. Puis alors, maintenant, surtout, ce que l'on dit, bien on dit que c'est une parabole, pour ne pas scandaliser les gens. Pourquoi? Parce que Jésus a employé souvent le langage parabolique. Il a employé ce langage pour enseigner. Alors, pour se rapprocher quand même un peu des croyants, on dit, mais ne voyez pas dans l'histoire de Jonas un récit authentique, mais c'est une parabole. Donc, ce récit de Jonas a toute sa valeur, mais si c'est une parabole, ce serait donc un récit allégorique sous lequel se cache un enseignement. Et ce qui compte, ce n'est pas l'historicité de ce livre, ce qui compte, c'est l'enseignement que ce livre veut nous donner. Au fond, on rejoint ce que j'essaye de dire. Quel est le message du livre pour nous aujourd'hui? Une parabole, donc, cache toujours un enseignement et c'est une comparaison. C'était l'une des méthodes de l'art oratoire, spécialement employée par Jésus, et qui illustrait une vérité morale ou religieuse par une comparaison tirée de la vie courante. Quel est votre sentiment? Quel est votre choix? Récit historique ou parabole? Pourquoi est-ce qu'on fait une difficulté? Au fond, c'est à cause de ce poisson. Est-ce que ça vous est difficile de croire à l'histoire du poisson? Si Dieu est Dieu, qu'est-ce qu'il est? Le Créateur. Mais vous savez qu'aujourd'hui, on ne croit plus à la création. On croit, mais on ne croit pas à la création. Alors, on n'enseigne pas la création dans les écoles, vous le savez bien. On enseigne vos enfants d'une toute autre manière. On ne dit pas au commencement Dieu, mais au commencement une cellule. Puis voilà. Mais qui a créé la cellule, même si c'était vrai, ça? Mais voyez comme c'est difficile pour notre génération. Eh bien, nous croyons au Créateur. Pour celui qui croit au Dieu Créateur, il n'y a pas de problème. C'est pas un problème. Je crois que Dieu a tout créé. L'Éternel prépara alors un grand poisson. Alors, ce poisson, il pouvait déjà exister, parce qu'on ne les connaît pas tous. Mais pour moi, c'est inutile de faire une recherche au sujet du poisson. Il y a un tas de gens, même des théologiens, qui ont voulu trouver des poissons, et ils en ont trouvé, et on a trouvé des poissons qui pouvaient avaler un homme. On a même retrouvé des hommes en vie dans un poisson. Mais c'est tout à fait inutile d'essayer d'argumenter comme cela. Je vous ai cité Karl Barth, et je me souviens toujours qu'il disait ceci, un miracle, ou bien on le nie, ou bien on y croit, mais il y a une chose qu'on ne fait pas, on ne l'explique pas. Hein? Et ça, c'était clair. Hein? Un miracle, on ne l'explique pas. Ou bien vous le croyez, ou bien vous le niez. Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, courez après lui. Si vous ne voulez pas croire au miracle, eh bien, abandonnez tout cela. Mais alors, si vous ne voulez pas croire à cette histoire de Jonas, à quoi croirez-vous? Les miracles de Jésus, est-ce que ce sont des faits historiques? Vous le croyez, oui. Mais les théologiens modernes, aujourd'hui, ils disent non. La plupart des théologiens modernes ne croient pas aux miracles. Et alors, ne croyant pas aux miracles, même des évangiles, on nous dit, mais c'est des illustrations. Ce qui est appelé miracle, c'était pour illustrer, par exemple, l'aveugle-né. J'ai entendu des théologiens le dire, mais il n'était pas aveugle. Mais Jésus a parlé ainsi pour expliquer qu'il était la lumière du monde. Et qu'est-ce que ça peut faire de savoir s'il était vraiment aveugle ou pas aveugle? Mais le jour où ça vous concerne, hein, est-ce que c'est intéressant de savoir si je suis aveugle ou pas aveugle? Quand ça nous concerne, c'est tout différent. Alors vous voyez, donc, c'est l'incrédulité qui nous fait faire des objections au sujet de ce grand poisson. Dieu prépara un grand poisson pour engloutir Jonas. Mais, vous voyez, on est dans une épreuve. Peut-être que Jonas, au sein de cette épreuve, au sein de l'océan, pensait qu'il pouvait encore s'en sortir, mais il ne va pas s'en sortir, il entre dans la gueule du poisson. Et c'est justement ça qui va le sauver. Donc, au lieu de nous effrayer par une succession d'épreuves, passons d'une épreuve à l'autre. Cette deuxième épreuve va être notre salut. Parce que si Dieu a préparé le poisson qui, à première vue, est pour Jonas quelque chose de terrible, c'est sa fin, mais ça ne sera pas sa fin, ça sera son commencement, vraiment, ce sera pour lui la possibilité d'avoir un nouveau commencement. Voilà ce que nous devons envisager au sujet de nos épreuves. Et Jonas fut dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. On nous dit, mais c'est impossible qu'un homme vive 3 jours et 3 nuits dans les entrailles du poisson. Alors on vous parle de tous les sucs, de l'estomac, enfin, Jonas aurait dû être digéré, enfin, décomposé, et puis comment respirait-il là-dedans, etc. Alors, quand j'entends tout cela, je pense toujours au petit enfant, comme je l'ai dit, qui est en formation dans le sein maternel. Est-ce que ce n'est pas aussi un miracle? Reprenez le psaume 139. J'ai été formé d'une étrange et admirable manière. Et le petit Jean-Baptiste, qui n'était pas encore né, qui n'était pas encore sorti du sein de sa maman, qu'est-ce qu'il faisait déjà dans le sein de sa mère? Quand il entend la salutation de Marie, il tressaille, quelques petits coups de pied, il tressaille dans le sein maternel. Donc, il a la vie déjà, il a la vie. C'est une merveille, nous adorons devant les voix de Dieu. Alors, si Dieu forme ainsi dans le sein maternel un enfant, il peut très bien conserver pendant 3 jours Jonas dans le ventre du poisson. Il n'y a pas de difficulté pour le croyant. Oh, vous me direz, mais enfin ça c'est la foi du charbonnier. Non, mais Dieu est Dieu. Alors il peut tout. Mais si vous ne croyez pas que Dieu peut tout, eh bien ce n'est pas le vrai Dieu auquel vous croyez. Et regardez, les 3 jours et 3 nuits, je trouve qu'il y a quelque chose de merveilleux ici, au sujet de nos épreuves. Nos épreuves, elles sont mesurées par Dieu. Disons qu'elles sont préparées par Dieu. Qu'est-ce qui a préparé la tempête? Dans le chapitre 1er, c'est Dieu. Hein? Il envoie l'épreuve. Maintenant que Jonas est au fond de la mer, qu'est-ce qui a préparé le poisson? C'est l'Éternel. Parce que dans le texte littéral, c'est « il prépara ». Ici, vous dites « l'Éternel fit venir un grand poisson ». Mais enfin, il l'a amené là, comme il amenait les corbeaux. mais il a préparé ce poisson. Alors qu'il l'ait créé ou qu'il l'ait amené d'un autre lieu, peu importe, c'est Dieu qui préside à tout. Il est le maître dans les cieux, sur la terre et dans la mer. Alors dans les entrailles du poisson, il n'y fera pas plus qu'il ne faut. Hein. 3 jours et 3 nuits. Vos épreuves, et c'est cela que vous devriez garder dans votre cœur, elles sont toujours mesurées par Dieu. Vous ne serez pas éprouvés au-delà de vos forces. 1 Corinthiens 10, verset 13. Et avec l'épreuve, il fera aussi l'issue. Nos épreuves, Dieu les mesure en jours. C'est vrai ou c'est faux? Vous avez ça dans Ésaïe 60. Les jours de ton deuil seront finis. Donc, nos épreuves sont mesurées en jours. Mais nos bénédictions, elles sont éternelles. C'est les siècles des siècles de l'éternité. Vos épreuves, elles sont considérées comme légères en comparaison de ce qu'elles produisent. Un poids éternel de gloire. Alors, moi, ça m'encourage beaucoup de penser que Dieu prépare l'épreuve, parce que c'est lui qui est derrière cela, hein, parce qu'il nous aime, et que l'épreuve n'est pas pour nous anéantir, mais pour nous corriger, comme on l'a vu, bienheureux, l'homme que Dieu châtie, l'homme que Dieu reprend, mais il ne nous frappera pas plus fort et qu'il ne faut, et plus longtemps qu'il ne faut, 3 jours et 3 nuits. Et puis, au sein même de l'épreuve, comme le dit le psaume 138, il nous fait vivre. Au sein de la détresse, tu me feras vivre. Est-ce que c'est vrai qu'on peut vivre au sein de l'épreuve? C'est bien sûr. Il ne va pas vous délivrer comme ça de l'épreuve. Il n'a pas délivré les 3 jeunes hébreux, compagnons de Daniel, il ne les a pas empêchés d'aller dans la fournaise. Hein. Mais dans la fournaise, lui est venu avec eux. Et il les a fait vivre au milieu du feu. Mais il faut y aller dans la fournaise. Et c'est cela. Hein. Vous irez dans la fournaise. Mais croyez-le, dans la fournaise, le Seigneur interviendra. Et il le dit dans Ésaïe 43, même quand je passerai par le feu. Il n'est pas dit que tu ne devras pas passer par le feu. Il faut vous attendre, si vous êtes témoin du Seigneur, à passer par des épreuves. Vous passerez par le feu, mais dans le feu, la flamme ne te consumera pas. Et même, on voit chez les jeunes Hébreux, quelque chose avait été consumé, vous le savez. Qu'est-ce qui avait été consumé par le feu? Les liens. Hein? Et les épreuves nous détachent. On les a jetés pieds et mains liés dans la fournaise, et pourtant quand on les a sortis vivants, quand ils sont sortis eux-mêmes vivants, ils étaient déliés. Hein? Parce qu'on les voyait se promener dans la fournaise et causer, parler avec le Seigneur, ou plutôt l'écouter. Hein? Bien sûr, il y a eu le cantique des 3 enfants dans les apocryphes, ils auraient même chanté, semble-t-il. Mais enfin, ça ne nous est pas rapporté dans les documents inspirés. Peu importe. Mais je pense que, en tout cas, même s'ils n'ont pas chanté dans la fournaise, ils ont pu chanter dehors, hein, une fois qu'ils ont été libérés, quand on a passé par une telle épreuve. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Donc Dieu ne nous délaisse pas. Et Jonas a dû passer par les eaux, et les eaux profondes. Et après les 3 jours, le temps est mesuré, Dieu nous fait vivre au sein de l'épreuve, comme il a fait vivre Jonas au sein du poisson. Alors, s'il a fait vivre les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise, vous pensez que c'était difficile pour Dieu de faire vivre Jonas au sein du poisson? Non, il était bien là. Je ne sais pas comment il était installé, mais enfin... Il était dans une situation où il pouvait en tout cas méditer. Au sein de l'océan. pas de téléphone, rien, on veut dire non. Et quand Dieu estime qu'il a bien compris, qu'est-ce qu'il fera, verset 11? Il commandera au poisson qui vomira Jonas sur la terre. C'est beau cela, hein? Donc, il n'y a rien qui est laissé à l'homme. Votre épreuve, Dieu l'a permis. Votre épreuve, Dieu l'a mesurée. Elle ne sera pas plus forte que vos possibilités de résistance. Et puis au sein même de cette épreuve, vous allez faire des expériences extraordinaires. Qu'est-ce que nous apprenons dans l'épreuve? Quel enrichissement nous apprenons dans les épreuves? Et puis, au moment où ils le trouveront, après nous avoir fait vivre dans l'épreuve, il y a une issue. Il préparera aussi l'issue afin que vous puissiez la supporter. Il commande au poisson qui vomit Jonas. Mais alors, dans le poisson, donc, notre Jonas, alors c'est là, vous savez aussi ce qu'on dit, ce qui est vraiment intéressant, c'est le chapitre 1er, chapitre 3e, chapitre 4e. Mais le chapitre 2, ça a été ajouté par quelqu'un d'autre. Mais pas après coup, pour que ça soit plus spirituel. On a fait dire à Jonas une prière. Mais enfin, tout ça, c'est l'auteur de la parabole qui aurait arrangé cela. Non. Nous croyons que c'est vraiment la prière de Jonas. Mais pourquoi est-ce qu'on dit que c'est pas, ce serait Père Jonas qui aurait dit cela? Parce que ce sont des citations d'où? Des psaumes. Ce sont des citations des psaumes. Des psaumes de David en particulier. Mais justement, les psaumes de David, ils existaient avant la naissance de Jonas. Et qu'est-ce qu'on lisait, ou qu'est-ce qu'on récitait de ce temps-là? Quelle prière est-ce qu'on récitait? C'est des psaumes. Enfin, ils étaient imprégnés des psaumes. Souvenez-vous de Marie, plus tard, hein, la mère de notre Seigneur, elle est toute remplie aussi des écritures, des psaumes. Alors, c'est pas du tout étonnant que notre Jonas prit les psaumes. Et quelles étaient les prières de Jésus? Si vous voulez savoir quelles étaient les pensées, les sentiments de Jésus et les prières de Jésus, qu'est-ce que vous devez lire? Les psaumes, parce que il n'y en a pas beaucoup de prières de Jésus. Il y a juste quelques-unes qui sont spontanées. Je loue au Père, Seigneur du ciel et de la terre. Il faisait des très courtes prières, Seigneur, quand il était en public. Hein. La prière sacerdotale, qui est un peu plus longue, mais elle ne dépasse pas 5 minutes. Tandis que des fois, quand nous prions, nous, dans une assemblée, si vous voulez stériliser une réunion de prière, c'est une longue prière. Et on dit toujours que ceux qui font de très longues prières dans les réunions publiques, ce sont ceux qui prient très peu dans leur cabinet, dans leur chambre. Alors, ils se font entendre dehors, mais habituellement, ceux qui prient, qui ont une vie avec le Seigneur, dans leur chambre, dans le privé, dans le silence, eh bien, ils ont des prières plutôt courtes en public. Alors, on ne prie pas pour se montrer comme le faisaient les pharisiens. Revenons à notre Jonas. On nous dit aussi, mais cette prière, ça tient pas. Parce que il dit, alors qu'il est encore dans le sein du poisson, j'ai crié à l'Éternel du fond de ma détresse et il m'a répondu. Il n'est pas encore vomi. Hein. Mais c'est déjà une action de grâce. Mais que devraient être nos prières? Est-ce qu'il faut attendre d'être exaucé pour rendre grâce, selon l'enseignement de Jésus? Non. Quand vous priez, dit Jésus, et là je pourrais citer bien des passages des évangiles, et nous dit ce que nous avons à dire, comment nous devons prier, mais dans le chapitre 11 de Marc en particulier, il est dit que quand nous demandons quelque chose à Dieu, nous devons croire que ce que nous disons s'accomplit, se fait, n'est-ce pas? Et alors nous le verrons s'accomplir. De sorte que
dans une prière de foi, on remercie Dieu avant même qu'on ait touché l'exaucement. Comprenez-vous? Et Jésus a fait cela. Quand il était, par exemple, devant le tombeau de Lazare, on avait roulé la pierre, il regarde vers le ciel et il dit, « Père, je sais que tu m'exauces toujours. » Est-ce que Lazare est ressuscité quand il dit ça? Non. Mais il sait que cela va avoir lieu. Et il dira, « Lazare sort dehors et le mort sorti. » Mais Jésus priait de cette manière-là. Il s'adressait à son Père et il rendait grâce déjà à l'avance. Eh bien, nos prières aussi, quand ce sont des prières faites en Dieu, quand nous sommes convaincus et que nous avons été éclairés sur la volonté de Dieu, nous pouvons déjà rendre grâce. Alors, au sein du poisson, le travail de Dieu était fait en Jonas et il a pu rendre grâce. Mais là encore, vous pouvez faire le parallèle, parce que ce n'est pas seulement la prière de Jonas, Jonas repentant, mais c'est aussi la prière de qui? De Jésus, n'est-ce pas? Alors, vous pouvez voir les deux. Comment Jésus a prié, lui qui est entré, lui aussi, dans les profondeurs de la mort. Le chapitre 2, c'est la descente de Jésus dans les profondeurs de l'abîme. Car il avait quitté le ciel, il est descendu, il est venu sur cette terre, il n'a pas trouvé de place, mais il a accompli son ministère tout en disant constamment qu'il était absolument nécessaire que pour sauver le monde, il donne sa vie. Alors, le plus grand que Jonas a été jeté par-dessus bord, hein, par ceux qui auraient dû le recevoir. Et il est entré dans les profondeurs de la mort. Alors, là, vous pourriez faire toute une méditation en repassant cette prière sur les sentiments qui se trouvaient dans le Seigneur quand il a été d'abord sur la croix, d'abord à Gethsémané, dans son angoisse, alors qu'il allait prendre les péchés du monde et connaître ce premier abîme, parce qu'il l'a dit ici, un abîme appelle un autre abîme. Et vous avez là une citation du psaume 42. À la voix de tes cataractes, toutes tes vagues et tes flots ont passé sur moi. Un abîme appelle un autre abîme. Et je dis quelquefois, il y a eu en tout cas trois abîmes. Jésus était descendu dans ce monde, oui. Oh, il y en aurait plusieurs autres d'abîmes, mais enfin, descendre déjà dans ce monde, quelque chose de terrible, dans ce monde de révolte, de méchanceté. Il y est descendu. Mais qu'est-ce qu'il a trouvé dans ce monde de méchanceté? Il a trouvé les péchés. Un abîme de péché. Et comment engloutir cet abîme de péché? Cet abîme de péché a appelé un autre abîme. Et ce fut l'abîme de quoi? De ses souffrances. L'abîme de nos péchés a créé un autre abîme pour Jésus qui a été l'abîme de ses souffrances. C'est pourquoi il a été ici-bas l'homme de douleur, l'habitué à la souffrance. Un abîme appelle un autre abîme. Jésus est descendu et il est descendu plus bas que nous. Il est descendu dans l'abîme de nos péchés. Et c'est ça, la souffrance de Gethsémané. Quand sa sueur est devenue semblable à des grumeaux de sang qui coulaient de son front sur la terre, quelle était sa pensée? Lui qui était saint, qui avait en horreur le mal, qui n'avait jamais péché, il allait être fait péché pour nous, comme le dit saint Paul dans le chapitre 5 de la deuxième épître aux Corinthiens. Et pour lui, c'était quelque chose d'effroyable. Et lui qui avait glorifié Dieu, qui avait en haine le péché, mais qui aimait le péché, il nous a aimés d'un tel amour qu'il a accepté d'être fait péché pour nous. Et être fait péché pour nous, devant Dieu, c'était comme si c'était lui qui avait commis nos péchés. Non pas il portait seulement nos péchés, mais il s'identifiait au péché.
De sorte qu'il était fait péché pour nous. Il allait être traité par son Père comme s'il était le péché même. Et c'est pourquoi le Père allait détourner sa face. Dieu allait détourner sa face. Alors voilà, un abîme, l'abîme de nos péchés, amenait l'abîme infini des souffrances de Jésus. Alors, toutes les souffrances, on peut parler des souffrances physiques du Seigneur, mais qu'est-ce que c'était que les souffrances physiques du Seigneur? C'était ces souffrances morales, et plus encore, les souffrances expiatoires, que nous ne connaîtrons jamais. Lui a expié nos crimes. Et si nous devions les expier, qu'est-ce que ce serait? On ne les expierait jamais. C'est les peines éternelles. C'est la damnation. Eh bien, il a été comme damné à notre place. Il a connu la séparation de Dieu pour que nous ne soyons pas rejetés de Dieu. Alors, l'abîme de péché a appelé l'abîme des souffrances et cet abîme de péché et cet abîme de souffrance ont été engloutis dans un troisième abîme qui est celui de son amour. Dans son amour, alors l'amour du Seigneur, c'est un véritable abîme. Et il va jusqu'au fond. De sorte que quand vous ne sentez plus la présence du Seigneur, ce n'est pas lui qui s'est éloigné de vous. C'est vous qui êtes monté trop haut. Il ne faut jamais vous penser, moi je ne sens plus la présence du Seigneur. Vous vous dites, mais le Seigneur là, il est là-haut au ciel sur son trône de gloire. Et puis moi, je vais essayer d'aller jusqu'à lui. Puis, parce que je sens que je me suis un peu éloigné. Hein. Alors on voit toujours la distance en hauteur. Je le dis souvent, notre vision est fausse. La distance, elle n'est pas en hauteur, elle est en profondeur. Hein. Si vous éprouvez que vous êtes loin du Seigneur, ce n'est pas parce que le Seigneur est là-haut, parce que le Seigneur est allé plus bas. Le Seigneur est allé plus bas que nous ne sommes. De sorte que c'est toujours nous, quand nous ne sentons plus la présence du Seigneur, vous pouvez être sûr que nous nous sommes élevés. Ça nous caractérise. On s'élève hein, par notre orgueil. C'est toujours l'orgueil qui nous sépare de Dieu. Dieu ne résiste qu'aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Vous voulez retrouver la présence du Seigneur? Regardez. Vous êtes éloigné de lui, mais lui, il est plus bas que nous. Il nous attend en bas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Jette-toi dans le vide. Non pas, essaye de grimper, parce que tu es cardiaque et ça va pas. Hein. Et tu t'essouffles. Mais il n'est pas question de grimper, il est question de vous abandonner. Abandonnez-vous, jetez-vous dans ses bras. Il est là, plus bas que vous. Et vous connaîtrez la divine étreinte. Au-dessous de vous sont les bras éternels. Deutéronome chapitre 33, oui, ils sont au-dessous de nous. Alors, abandonnez-vous, jetez-vous dans ses bras. Et alors, le Seigneur vous donnera sa bénédiction et sa grâce. On pourrait évidemment s'arrêter sur chacun de ces versets. Alors, Jonas peut dire, j'ai crié à l'Éternel du fond de ma détresse. Il a dû aller jusqu'au fond. Et il m'a répondu. Il a maintenant l'assurance. Qu'est-ce qu'il a fait, ce Jonas, maintenant, pour pouvoir prier ainsi? Pour retrouver, au fond, la présence du Seigneur. Il avait fui la présence du Seigneur. Et il s'est bien rendu compte qu'on ne pouvait pas le fuir. Alors, il s'est reconnu. Après avoir été le Jonas désobéissant, nous trouvons ici le Jonas repentant. Et on trouve la prière d'un homme coupable. Quand on parle de Jonas, c'est un homme coupable, mais qui a reconnu sa faute et qui en a accepté les conséquences. Tandis que Jésus, lui, il n'avait pas de faute, mais il a pris nos fautes. Et qu'est-ce qu'il a accepté? Les conséquences de nos fautes. C'est lui qui les a portées. Ésaïe 53. Il s'est chargé de nos langueurs. Il a pris sur lui nos douleurs. Le péché est tombé sur lui. Nos péchés sont tombés sur lui. Et nos iniquités, et c'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. Mais Jésus a toujours dit qu'au sujet de notre salut, il fallait qu'il meure. Il l'a dit aux disciples d'Emmaüs après la résurrection, au chapitre 24 de Luc, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses? Est-ce que vous n'avez pas compris ça, que le Christ devait souffrir, que le Christ devait mourir? La loi, les psaumes et les prophètes enseignaient cela, que le salut ne serait donné que par la mort du libérateur. Déjà dans le chapitre 3 de la Genèse au verset 15, il était parlé d'une blessure qu'aurait le libérateur. Cette blessure, il l'aurait où? Au talon, dans la partie la plus basse de son être, la partie avec laquelle il touche à la terre, c'est là le talon, on touche à la terre par notre talon, eh bien Jésus allait être atteint dans son humanité. Mais c'est en étant atteint dans son humanité qu'il allait entrer dans la mort et vaincre justement celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et en entrant dans la mort, il allait lier l'homme fort, pilier ses biens, il allait en ressortir. Et il disait dans son ministère, à cause de ceci, le Père m'aime, c'est que moi je donne ma vie pour mes brebis. Personne ne me l'ôte, il l'a donné lui-même. Il l'a donné, il s'est donné pour nous. Et dans le chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux, il est souligné aussi que il convenait, les versets qui me frappent souvent, hein, il fallait, il convenait que le Christ passât par ses souffrances, qu'il fût amené à la perfection par les souffrances en tant qu'homme, et il fut consommé par les souffrances. Et puis dans Ésaïe 53, il dit, il plut, il fallait, il convenait, et il plut à l'Éternel de le meurtrir, il l'a soumis à la souffrance. C'est un mystère adorable, mais c'était une nécessité. Sans la mort du Christ, est-ce que nous sommes sauvés? Non. C'est par sa mort. Je l'ai dit ce matin, je l'ai dit souvent, je le répète, ce n'est pas par les enseignements qu'il a donnés qu'on est sauvés. C'est pour ça que si on se borne à écouter simplement les enseignements du Christ, on a une belle morale, mais on n'est pas sauvés. Vous pourriez connaître toutes les paraboles de Jésus, toutes les paroles de Jésus, mais si vous ne croyez pas à sa mort expiatoire, et que pour vous sauver, il a fallu qu'il meure. Et au fond, c'est ça qui change un homme, qui change une vie. Quand vous saisissez que si vous êtes sauvé, c'est parce qu'un autre est mort pour vous. Votre salut, c'est pas quelque chose de gratuit. Ça a coûté quoi ? La mort de Jésus. La vie de Jésus a été donnée pour vous racheter de votre vaine manière de vivre. Donc on n'est pas... Le salut, on nous dit toujours, oh c'est gratuit, c'est gratuit. Oui, c'est un salut qui vous est offert par grâce, mais comme le dit un théologien allemand qui a été lui aussi martyr, il est mort sous Hitler, Bonhoeffer, le prix de la grâce. Hein, le prix de la grâce, c'est quoi? C'est la mort de Jésus. On rejoint ici l'apôtre Pierre qui dit, vous avez été rachetés de votre même manière de vivre, non par des choses corruptibles de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux du Christ. Et alors, si vous voulez faire vous-même cette étude, retrouvez les paroles des psaumes dans cette prière de Jonas, qui est aussi la prière de Jésus. Puis si vous voulez vivre intensément, au fond, les sentiments qui étaient dans le Seigneur quand il était en Gethsémané, quand il était ensuite à Golgotha, eh bien, relisez cette prière, méditez, et méditez les psaumes, parce que les psaumes nous révèlent les pensées de Jésus. Dans les évangiles, vous avez les paroles et les actes de Jésus, mais si vous voulez connaître les pensées de Jésus, il faut lire les psaumes. Il faut lire les psaumes et découvrir dans les psaumes la personne de Jésus. J'ai prêché dans une église, il y a quelques personnes ici qui sont, je crois, dans qui était là dimanche dans cette église. Et quelqu'un est venu me trouver parce que j'avais parlé du pauvre dans les psaumes. Et il est dit, bienheureux celui qui comprend le pauvre ou qui s'intéresse au pauvre. Et j'ai présenté le pauvre comme étant le Seigneur lui-même. Et là, pour cette personne, c'était comme un trait de lumière. Mais oui, dans les psaumes, celui qui est le pauvre, c'est qui? C'est Jésus. Il était riche, mais il s'est fait pauvre. Et c'est par sa pauvreté que nous avons été enrichis. Et alors, c'est une fois qu'on a vu le pauvre, celui qui était riche et qui s'est fait pauvre et qui nous a enrichis dans sa pauvreté même, eh bien, c'est en voyant le pauvre qu'on peut comprendre aussi les pauvres, qu'on peut aller vers les pauvres. Mais il faut passer par le grand pauvre. Alors, on a une toute autre vision et une toute autre compréhension des psaumes quand on y trouve la personne de Jésus. Les psaumes deviennent absolument passionnants. Certes, David a passé par ces circonstances, des hommes ont passé par ces circonstances, nous aussi nous passons par ces circonstances, mais qui a passé avant nous? Jésus. Alors, il n'y a pas un chemin par lequel vous deviez passer où Jésus n'est pas passé avant. C'est fantastique, ça. C'est pourquoi il vous dit, moi je suis le bon berger. Hein. Et le bon berger, il marche toujours devant ses brebis. Et nous avons à le suivre. Mais qui est devant nous? Le Seigneur. Il ne faut pas que nous ayons toujours à nous retourner et à lui dire, Seigneur, est-ce que tu suis? Tu me suis, Seigneur? Non. Est-ce que moi, je le suis? Toi, suis-moi. C'est pas, Seigneur, tu peux bien me suivre, hein? J'ai envie d'aller ici, j'ai envie d'aller là. Tu viens avec moi? Non. Notre seul désir, c'est d'aller où le Seigneur veut que nous allions, où il nous conduit. Vous savez, il n'a trompé personne. Quand des gens venaient lui dire, Seigneur, nous voulons te suivre, je te suivrai. Mais tu veux me suivre? Hein? Ça, c'est un prédicateur vrai. Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel des retraites, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Moi, je ne t'offre pas quelque chose de fameux. Si tu veux me suivre, qu'est-ce que tu auras? La croix. Hein? On n'aime pas dire ça. Eh bien, c'est ça. Si tu veux me suivre, tu auras la croix. Et voyez-vous, Jonas, maintenant, il a compris qu'il fallait passer par la mort. Et que son salut à lui, comme le salut des païens venait de sa mort, hein, de son ensevelissement, de son rejet, mais aussi son salut à lui. Parce que, au fond de ses eaux, qu'est-ce qu'il allait trouver? Le Seigneur lui-même, qui était entré. Et qui est celui qui va en sortir. Et c'est pourquoi Jésus souligne justement que Jonas justement est une figure, est un type de sa mort et de sa résurrection. Et je souligne encore que si vous voulez réellement vous pénétrer de cette mort de Jésus, placez-vous devant la croix, rejoignez Marie, rejoignez Madeleine et l'apôtre Jean qui se tenait près de la croix, puis écoutez-le. Hein? Puis qu'est-ce que vous entendrez? Les fameuses sept paroles que vous connaissez. Les sept paroles que Jésus a prononcées sur la croix et qu'on pourrait voir aussi dans ce chapitre. Mais cela, c'est à vous de le méditer. Et cette descente, vous voyez, Jonas, il est descendu plusieurs fois, mais verset 7, il dit, « Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre s'étaient fermées pour moi pour toujours. Mais éternel, mon Dieu, tu as fait remonter ma vie de la fosse. » Mais il est encore dans le ventre du cétacé. Hein. Et il dit déjà, « Tu m'as fait remonter de la fosse. » Voilà maintenant, c'est un homme qui sait qu'il sera sauvé, qui sait qu'il aura la vie. Et Jésus lui-même, avant même de mourir, il pouvait annoncer sa résurrection. Et les résultats de sa résurrection, c'est quand vous aurez élevé le Fils de l'homme de la terre, alors j'attirerai tous les hommes à moi-même. Mais alors, il y a eu des moments quand mon âme, verset 8, défaillait en moi. Souvenez-vous de Jésus qui dit « Mon âme est troublée jusqu'à la mort ». Et il demande à ses disciples de prier et n'ont pas pu prier. Mais il s'est souvenu de l'Éternel. Ma prière est venue jusqu'à toi dans le temple de ta sainteté. Quand il dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il semble qu'il n'y a pas de réponse. Mais la réponse viendra. Nous savons pourquoi il a été abandonné, parce qu'il était fait péché pour nous, parce qu'il était identifié même au péché. Mais il peut dire ensuite, tout est accompli. Et Père, entre tes mains, je remets mon esprit, après avoir dit encore le fameux « j'ai soif ». Et après avoir pu s'occuper encore d'une âme perdue, le brigand sur la croix, après avoir pu consoler sa mère. Et la première parole, il l'avait dit pour qui? Pour ses bourreaux. Hein? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Les prières de Jésus, les sentiments de Jésus. Et il y a un verset que j'aime beaucoup et que, littéralement, il est mieux traduit dans la version Darby ou même dans la version de du français courant. Il est dit au verset 9, « Ceux qui regardent aux vanités mensongères abandonnent la grâce qui est à eux. » Si pour votre salut, vous regardez à ce que le monde vous offre, et ce sont des vanités mensongères, si vous regardez aux idoles de ce monde, eh bien, vous abandonnez quoi? La grâce qui est à vous. Mais la grâce, elle est pour qui? Pour des condamnés. Bien, si vous avez reconnu que vous étiez pécheur, perdu, méritant la mort, eh bien, c'est par là qu'il faut commencer. Pour être sauvé, reconnaissez d'abord que vous êtes perdu. On ne peut prétendre être sauvé que si on a été perdu. Parce que sans ça, alors c'est quoi notre salut? Si je dis que je suis sauvé, vous êtes en droit de me demander mon histoire. De quoi êtes-vous sauvé? Alors je dois avoir une histoire personnelle. Je suis sauvé de la mort. Et c'est une chose vraiment affreuse. Jonas avait une histoire à raconter. Quand Jonas est arrivé à Ninive, c'était un sauvé, hein. Mais qu'est-ce qu'il pouvait dire aux gens de Ninive? La parole de Dieu, elle, s'accomplit. J'en ai fait l'expérience. C'est une vraie expérience. Il sera un signe pour les Ninivites. Parce que on sait maintenant, à Ninive, on saura que Jonas a été jeté dans la mer, englouti par un poisson, de sorte que ça aura du poids. C'est pas seulement sa parole maintenant, mais c'est son existence. Si Jonas est là, c'est parce qu'il a été sauvé. Et la parole qu'il va prêcher, eh bien, évidemment, on peut la croire. Il a une autorité pour parler. La grâce, oh mes amis, elle est à vous. Ne regardez pas aux vanités mensongères pour votre salut. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. La grâce, elle est à vous. La grâce, elle est pour les perdus. Mais pour que vous puissiez jouir de la grâce, il faut que vous ayez reconnu que vous étiez perdu, que vous étiez pécheur. La première œuvre du Saint-Esprit, c'est de vous convaincre de pécher. Et voyez-vous, ça fait un peu mal parce que on perd nos illusions. On dit, mais je ne suis pas si mauvais que ça. Mais oui, il faut reconnaître combien on est mauvais. Et voyez-vous, on va le voir plus loin. Combien on est désespérément mauvais. La première chose à croire, c'est que le cœur de l'homme est incurable. Qui le connaît? Est-ce que nous connaissons notre cœur? Quand nous voyons notre cœur tel que Dieu le voit, on a horreur de soi. Mais pour ça, il ne faut pas le voir à notre petite lumière, à notre chandelle, hein, parce qu'on ne voit pas grand-chose avec notre chandelle, avec nos lumières à nous. Hein. Il y a bien des taches d'ombre, puis on pense que ça va. Mais si vous vous voyez à la lumière de Dieu, pas à la lumière des autres, parce que les autres, qu'est-ce qu'ils vous disent? Vous êtes tellement gentil. Bande de menteurs, ils pensent tout autrement, mais ils nous trouvent bien, ils trouvent qu'on est des êtres extraordinaires. Mais quand ils parlent après de nous, c'est bien minable ce qu'ils pensent. Hein. Mais nous sommes menteurs. Que Dieu soit vrai et tout homme menteur. Ne flattez pas la louange de... Non, non, rejetons tout cela. Ma langue, disait Eliu, l'ami de Job, ne s'est pas flattée. Ma langue ne s'est pas flattée. La flatterie, ayez peur des flatteurs. Alors la grâce est à vous. N'abandonnez jamais la grâce. Quelle que soit votre condition, la grâce, elle est pour vous. Même si vous êtes au fond de l'abîme, on a parlé des abîmes, hein. Bien, je voudrais que ce soir, vous puissiez vous dire, moi, je ne sais pas quel est votre abîme, hein. Dans quel abîme êtes-vous? Bien, la grâce, elle est pour vous. Pour vous sortir de l'abîme, de cet abîme où vous vous trouvez personnellement, ne regardez pas vos vanités mensongères. N'attendez rien des idoles, n'attendez de secours de personne. Allez au Seigneur Jésus. Vous me dites, mais moi, ma situation est impossible. Et quand vous me dites, ma situation est impossible, je ne vous dis pas, venez vers moi. Parce que moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je sais très bien que je ne peux pas. Mais je peux vous dire, allez à Jésus. Parce que nous sommes terribles, nous autres. Nous avons tout le temps prêché qu'il n'y a pas de médiateur entre Dieu et les hommes, hein, autre que Jésus-Christ. Et nous prétendons toujours pouvoir être médiateurs avec les âmes. Mais nous devrions dire à ces âmes, mais va à Jésus. Allez à Jésus. Mais comment aller à Jésus? Bien, enferme-toi dans ta chambre. Puis mets-toi à prier. Oui. Il ne va pas me parler à moi. Vous abandonnez déjà la grâce qui est à vous. Vous ne voulez pas essayer. Je sais d'avance qu'il ne me dira rien. Comment savez-vous? Mais c'est ça, nous avons un cœur dur, un cœur incrédule. J'ai vu des gens qui ont connu vraiment des miracles quand ils sont allés à Jésus. Oh non, mais il faut aller peut-être vers celui-ci, il faut peut-être aller vers celui-là, il faut peut-être lire tel bouquin ou tel autre sur ce sujet. Puis plus vous en lisez, moins ça va bien. C'est toute la théorie. Mais si vous aviez un contact personnel avec le Seigneur... Au fond de l'abîme, il est au fond de votre abîme, il est là. Quand est-ce que le fils prodigue a retrouvé son père au fond? Quand il est rentré en lui-même, étant rentré en lui-même. Alors vous descendez là jusqu'au fond de votre cœur, dans les profondeurs de Dieu, c'est là que vous le trouvez. Dieu n'est pas là-haut, lointain, il est là. Et il attend votre retour, parce que vous êtes toujours dehors, vous êtes toujours sorti. Dieu dit, mais moi je suis là, je t'attends dans ton cœur. Pourquoi suis-je venu? Et il n'y a eu personne. Puis tout le temps dehors, dans le pays étranger, tu cours dans le monde, retourne, rentre en toi-même, et étant rentré en lui-même, il pense à son Père, et il retourne vers le Père. Et il est accueilli par le Père. Maintenant, si vous vouliez, parce qu'il y a tellement de sujets, voir autre chose, je vais juste vous souligner quelques jalons sur ce chapitre 2 encore, parce que c'est un chapitre qui est très instructif au sujet de nos épreuves. J'ai souvent parlé, même ici, des épreuves, des différents genres d'épreuves. Je ne vous en cite que quatre.
il y a des épreuves qui sont les conséquences de nos inconséquences. Il y a des épreuves que Dieu ne voudrait pas nous faire connaître. Elles sont simplement les conséquences de nos inconséquences. Si Lot a tout perdu à Sodome, c'est pour quelle raison? Parce qu'il a choisi s'installer là. Il a choisi Sodome. Il leva ses yeux, il vit Sodome, il s'est dit, c'est le meilleur moyen, là, c'est là que je serai mieux. Il n'a pas pensé que les hommes de Sodome étaient de grands pécheurs devant l'Éternel. Alors, en y allant, il y a introduit sa famille, il a mis toutes ses filles, ses enfants en danger, et même sa femme. Et alors, c'était la catastrophe pour lui. Bien sûr que Dieu l'a sauvé quand même, mais comme au travers du feu. Maintenant, Samson, s'il est devenu aveugle, si les Philistins lui ont crevé les yeux, c'est la faute de qui? L'homme si fort, c'est de sa propre faute. Il a cru qu'on pouvait jouer avec Dieu. Alors qu'il savait très bien qu'un homme israélite ne devait pas courir après les femmes philistines, bien, il s'est amouraché encore de Delila, et puis finalement, il lui a livré son secret, et il a dit, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui, parce que la première fois, il était déjà dans le mauvais chemin, mais ça a encore marché, une fois, deux fois, trois fois, Dieu a eu de la patience. Puis un jour, eh bien, Samson a pensé que ça irait toujours, parce qu'il était le consacré de Dieu, nazaréen dès le ventre de sa mère. Mais votre nazaréat, il faut l'entretenir. Et si vous pensez, mais je peux me permettre tout, je suis un sauvé. Alors vous pensez que les sauvés peuvent se permettre tout? Mais non, il faut être conséquent. Alors, évidemment, je ne vous dis pas que vous serez perdu, même si vous vous êtes éloigné, mais je vous dis, le Seigneur peut vous restaurer, mais sans son restaurer, il a retrouvé sa force quand il s'est humilié. Ses cheveux, une figure, ont recommencé à pousser. Il a retrouvé sa force. Mais quand il est mort, oui, il a retrouvé sa force, mais qu'est-ce qu'il n'a pas retrouvé? Ses yeux. Hein? Nos péchés, nos manquements laissent des cicatrices. Alors, souvenez-vous de cela. Il y a des situations, des fautes que nous ne devrions pas commettre. Nous sommes responsables des épreuves qui sont les conséquences de nos inconséquences. Ici, Jonas, en quelque sorte, lui aussi, s'il avait obéi, il n'aurait pas dû connaître cette épreuve-là. C'est parce qu'il est désobéissant qu'il doit la connaître. Mais Dieu, qui est au-dessus de tout, fait finalement tourner toute chose à sa louange et à sa gloire. Même du mal, notre Seigneur peut en tirer du bien. Maintenant, il y a les épreuves qui nous viennent de la part des hommes. Alors, donc, quand nous sommes responsables de nos épreuves, nous-mêmes, quand c'est les conséquences de nos inconséquences, comment en être délivré? Comment trouver le pardon? Par la confession. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les confesse et qui les abandonne, il obtient miséricorde. Proverbe 28, verset 13. Et puis alors, il y a le fameux passage du psaume 32, verset 1 à 5. Bienheureux l'homme à qui l'Éternel ne compte pas les transgressions, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Et puis, il dit, je t'ai fait connaître mon péché. Donc, c'est par la confession qu'on retrouve la joie du salut. Alors, il y a ensuite donc les épreuves qui viennent des hommes. Forcément, les hommes ne nous comprennent pas toujours, surtout s'ils ne sont pas chrétiens. Et nous avons des exemples de serviteurs de Dieu qui ont été éprouvés par des hommes. Auxquels peut-on penser? Dans la Genèse, un homme qui a eu beaucoup d'épreuves. Dans la Genèse, Joseph, hein? Joseph, vendu par ses frères, il a une succession d'épreuves. Il est fidèle, mais plus il est fidèle, plus il est éprouvé. Alors, est-ce qu'il doit se décourager? Non.
toutes ces épreuves qui se succèdent vont l'amener à être finalement le premier après le Pharaon. C'est à l'école de la souffrance que Dieu le prépare. Il y a un verset fantastique dans les psaumes qui nous révèle justement le pourquoi des épreuves de Joseph et combien il a dû souffrir avant d'être mis à la tête du pays d'Égypte. Il est dit au verset 17 que bon, c'est les frères de Joseph qui l'ont vendu, mais au fond, Dieu en prend la responsabilité. Il envoya un homme devant eux, verset 17 du psaume 105. Joseph fut vendu pour être esclave. Ils ont dit, mais pourquoi est-ce que Dieu a permis cela? Mais Dieu permet l'épreuve, oui. Joseph fut vendu pour être esclave. On lui serra les pieds dans les ceps. Vous n'avez pas ça dans la Genèse. Hein? Mais pourtant, il est dit qu'il était en prison. Mais là, il est dit qu'on lui a mis les pieds dans les ceps. Son âme entra dans les fers jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait dit, la parole de l'Éternel l'éprouva. La parole de l'Éternel l'éprouva. Alors, on doit accepter l'épreuve. Joseph a accepté l'épreuve. Et ensuite, le Seigneur est intervenu. De sorte qu'on peut, même faire toute une étude sur la vie de Joseph avec ce verset de Romains 8, verset 28. Vous le connaissez par cœur. Tout concours ou toute chose travaille au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous êtes éprouvés par les hommes, mais soyez assurés que tout cela, eh bien, n'est pas contre vous, mais pour vous. Une épreuve qui s'ajoute à une autre épreuve, c'est pour vous faire aller plus en avant. Ne vous découragez pas par cette succession d'épreuves. Comme Jonas qui a vu la gueule du monstre. C'était pour le délivrer. On peut parler aussi des souffrances de David, mais en finale, David a été délivré de tous ses ennemis. Prenez le verset premier du psaume 18. Psaume du serviteur de l'Éternel, de David, qu'il adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, le jour où l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il y a une délivrance. Alors, croyons que le Seigneur fait concourir tout à notre bien. Vous pouvez prendre aussi l'histoire de Daniel, et vous voyez aussi qu'il a été bien éprouvé, mais c'est par ses épreuves qu'il est arrivé à occuper le poste qu'il avait. Et souvenez-vous que les épreuves, nos épreuves, se sont mesurées. Alors, on peut dire, oui, si Jonas a dit, je sais que c'est à cause de moi que cette tempête est venue, on peut dire aussi qu'il a su que tout finirait bien malgré tout pour lui quand il s'est humilié. Bien que le pécheur fasse le mal 100 fois et prolonge ses jours, Ecclésiaste 8, verset 12, je sais, cependant, je sais malgré tout que tout ira bien pour ceux qui craignent Dieu. Or, Jonas craignait quand même Dieu. Je crains Dieu. Il l'avait dit dans sa confession, je crains Dieu. Et finalement, tout est bien allé pour lui. L'Éternel commande au poisson qu'il libère Jonas. Et un troisième genre d'épreuve que je vous cite sans m'y allonger, c'est les épreuves dont Satan est l'auteur. Et vous avez comme exemple, c'est un homme où vous voyez que Satan est derrière cette épreuve, Job. Hein? C'est l'épreuve au troisième degré que j'appellerais ça. C'est Satan qui est l'auteur. C'est plus les hommes, mais c'est Satan, l'accusateur des frères, qui se présente devant Dieu et qui accuse Job, au fond, de servir Dieu par intérêt, parce que Dieu l'a béni. Alors Dieu permet à Satan d'éprouver Job, pour que Job ait l'occasion de se justifier de cette accusation. Mais Job, comme on l'a dit souvent, n'a pas le livre de Job pour le consoler. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Il est seulement dans l'épreuve. Mais il reste fidèle. Et nous aussi, quand nous avons Satan contre nous, nous avons, pour lutter contre les puissances de Satan, qu'est-ce que nous avons? Nous sommes démunis. Donc nous avons l'armure complète de Dieu pour que nous puissions résister et tenir ferme. Éphésiens chapitre 6. Puis alors, la quatrième épreuve, qui est l'épreuve suprême, c'est quand Dieu nous éprouve, lui-même. C'est très rare. Parce qu'il n'y a qu'aux hommes de foi que Dieu envoie des épreuves pareilles. C'est l'épreuve qu'Abraham, au chapitre 22 de la Genèse, il est dit « Et Dieu éprouva Abraham. » Dieu est lui-même derrière cette épreuve. Et qu'est-ce qu'il lui demande? Son propre fils, son Isaac. Ça, c'est l'épreuve supérieure. Lot n'aurait pas supporté une telle épreuve. Mais Abraham a traversé cette épreuve, et c'est dans cette épreuve qu'il est arrivé, lui le premier, à avoir l'idée d'une résurrection. Vous avez ça dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Voilà, quand Dieu veut nous faire avancer plus loin encore, il permet quelquefois que nous soyons très éprouvés, parce que c'est dans cette épreuve que le Seigneur nous libère de toutes nos attaches, pour nous donner une révélation plus grande de ses voies. Il a pensé, bien, si même je dois faire mourir Isaac, Dieu me redonnera Isaac. Mais comment, il ne sait pas. Par une sorte de résurrection qu'il est dit. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? L'Éternel parla aux poissons. Les poissons obéissent. Est-ce que vous pensez, on peut peut-être se lever, ou vous avez assez? Ou bien on peut continuer un peu après un moment de détente? Notamment si vous voulez savoir des choses sur ce voyage, voilà, c'est quand même passionnant de continuer. Vous allez reprendre ce chapitre 2 pour le méditer sur notre identification au Christ dans sa mort. Notre salut, nous ne l'avons que dans la mort du Christ. Et au fond, Jonas, maintenant, quand il réapparaît, c'est quoi? C'est un mort vivant. Jonas était mort. Et puis, maintenant, il vit. Mais il est mort. Après avoir passé par là. Et c'est cela notre salut. C'est pas un Christ seulement qui est mort pour nos péchés. Mais c'est un Christ qui nous a pris avec lui dans sa mort. Et voyez-vous, c'est par sa mort que nous avons la vraie vie, la vie véritable. Et c'est en vivant comme des morts. Nous sommes morts. Là, il faudrait prendre le chapitre 6 de quel épître? Aux Romains, hein? Le chapitre 2 de l'épître aux Colossiens. Nous devons nous tenir pour morts. C'est ça qui change tout. Et nous avons passé par la mort. Nous avons été identifiés au Christ dans sa mort. Parce que si nous prétendons être ressuscités, c'est comment? C'est nous qui nous sommes ressuscités? C'est lui. C'est en lui que nous sommes ressuscités. Entraînés avec lui dans sa mort, de sorte que maintenant, la volonté propre est en quelque sorte brisée, et puis nous sommes prêts à faire la volonté de Dieu. À laisser Dieu faire avec nous ce qu'il entend. Parce que quand Jonas sort du poisson, Dieu pourra faire avec lui ce qu'il entend. Maintenant. Alors, est-ce que vous connaissez cette expérience? Maintenant, le Seigneur fait avec vous ce qu'il veut. Je suis mort. Mort à vos désirs. Vous avez renoncé. On vous a acheté par-dessus bord. Vous avez compris que vous n'aviez de salut que dans cette mort. Pour que je sois libéré de certaines choses, il faudrait que je sois mort. C'est donc cette mort que vous avez la libération. Alors maintenant, Dieu peut commencer avec vous. Maintenant que vous n'avez plus de prétention,
La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Vous ne croyez pas que c'est merveilleux? Dieu vous donne une autre possibilité, une seconde fois. Dieu parle une fois, deux fois. Et l'on n'y prend pas garde, il lui adresse une seconde fois. Ça vous fait penser à qui? À qui le Seigneur a donné un second souffle? L'apôtre Pierre. Vous rendez compte, après qu'il eut renié le Seigneur en disant « Je ne connais pas cet homme », bien Dieu, le Seigneur l'a restauré parce qu'il a confessé, il a pleuré amèrement sur son péché et le Seigneur lui a donné une seconde possibilité. Et même, il l'a établi pour paître ses agneaux, pour paître ses brebis. Et c'est lui qui a été l'instrument de la conversion de qui? Oui, de Corneille, un païen, mais aussi de 3000 âmes le jour de la Pentecôte. L'homme qui avait renié Jésus, c'est lui que Jésus a employé. Donc, même si vous pensez en ce moment à tous vos reniements, même si vous dites, même moi, jusqu'à présent, j'ai été quoi? Un beau zéro. Hein? C'est vrai? Vous êtes un zéro? C'est formidable. Vous êtes rien, hein? Vous êtes un zéro. Bon. Alors, ça dépend. Où mettez-vous Jésus, qui est l'unité? Si vous le mettez là, vous êtes toujours un zéro. Ça ne change rien. Il faut le mettre où, l'unité? Il faut le mettre devant. Hein? Alors, ça fait une puissance. Vous êtes zéro. Si vous laissez Jésus venir devant, lui qui est l'unité, ça fait 10. Bon. Mais vous dites, mais moi, comme couple, on est 2-0. Nous sommes un couple, ça ne va pas. C'est 0-0. Bon. 2-0. Bon. Si l'unité vient derrière, ça ne change rien. Hein? C'est pas cher, non, ça vaut pas. Pire qu'avant. Mais s'il vient devant, ça fait 100. C'est vrai? C'est comme ça l'arithmétique du ciel. C'est comme ça. Et plus même vous vous sentez des zéros sur toute la ligne, eh bien, quand le Seigneur est devant, ça fait 1 000 000. Je suis 0-0 sur toute la ligne, il n'y a rien qui va. Mais il faut le reconnaître, mais... Et alors après, on pourrait parler de multiplication. Parce que quand on laisse au Seigneur la place, il y a des multiplications. Mais je voudrais que vous soyez encouragés. Vous dites, oh oui, mais avec mes enfants, ça fait encore 2 zéros de plus. Ou... Je pense que mes enfants, ça ne va pas. J'ai 2 enfants, j'ai 3 enfants. Vous rendez compte, ceux qui au Québec en avaient 15, vous voyez? Puis, ils n'avaient pas cette connaissance que vous pouvez avoir. Laissez le Seigneur venir devant. Vous ferez une belle famille. C'est une puissance. Que le Seigneur vous restaure, que le Seigneur vous encourage. Mais mettez-le devant. Hein? Mettez-le devant. Regardez le brigand. Le brigand sur la croix, il est un beau zéro. Hein? Mais il a regardé au Seigneur. Lui, brigand. Toute sa vie, ça avait été zéro. Le Seigneur lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est une parole de la croix. Nous pourrions continuer, mais chercher des applications de tout cela. Jonas avait été zéro. Et voilà, maintenant, le Seigneur est là. Pierre a été zéro. Mais le Seigneur est devant. Suis-moi. Donc, le 1, il est toujours devant. L'unité. Et c'est merveilleux que Dieu parle une seconde fois. Et voyez les paroles du Seigneur.
va, lève-toi. Combien de fois est-ce qu'on trouve le lève-toi dans cet épître? Vous l'avez vu?